Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Alors nous recevons aujourd'hui la rédactrice en chef, directrice de la publication de L'Art dans l'air. Et pourquoi il n'y a pas de numéro spécial en vue ni de publication liée au journal, mais un guide vient de sortir dans le cadre de cette revue. Et alors, le guide des musées en Occitanie. Alors, deux intérêts. D'une part, c'est un guide des musées, il n'en existait pas. Donc ça, c'est très bien. Et d'autre part, en Occitanie, on aura compris qu'on s'adresse là à la grande région, la nouvelle grande région. Donc c'est une image, cette fois, une image de la nouvelle région à travers ces musées. Bonjour, Anne de Vailly.
Bonjour.
Alors voilà, qu'est-ce qui vous a pris tout à coup de vous lancer dans un guide alors que jusqu'à présent, vous vous contentiez de la publication régulière de votre revue ?
Alors, vous avez raison. Donc c'est un pari un peu audacieux parce que ce n'est pas dans la prolongation des numéros habituels. Mais on s'est dit qu'il n'y avait pas encore de guide des musées à l'échelle de cette région, cette nouvelle région Occitanie. Ça fait un an que l'Occitanie existe, donc on s'est dit que c'est pertinent maintenant d'essayer de rassembler tous ces musées dans un même guide. Et ça fait un an aussi qu'on les suit pour les expositions, pour annoncer les expositions dans nos agendas. Donc on avait déjà les contacts. On s'est dit qu'on allait essayer de fédérer un peu tous ces musées. Alors, il y a musées et musées.
Voilà.
Donc quels critères on allait prendre ? Alors on a pris les musées au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire ceux qui ont un fonds permanent. On n'a pas pris ce que l'État, enfin la terminologie officielle appelle les centres d'art, qui eux sont plutôt pour des expos temporaires. Donc on a pris que ce qui est permanent, et dans ce qui est permanent, ce qui a un rapport avec les beaux-arts, c'est-à-dire tous les musées beaux-arts, en gros, plus ceux qui, de temps en temps, font un effort pour exposer des artistes. Par exemple, il y a un truc loufoque dans le guide, j'ai absolument tenu à mettre Micropolis. Alors les copains m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? Et Micropolis, donc, est un musée d'insectes, a exposé une fois un artiste de la région qui était venu tout simplement avec son carton sous le bras. Donc je me suis dit, ça peut rendre service aussi aux artistes de savoir que le musée est ouvert à ce genre de proposition. Donc on a mis, bon, c'est un peu une exception, c'est anecdotique, mais pour vous montrer le raisonnement qui était derrière.
Ceci dit, c'est un musée intéressant.
Enfin, très.
Bon, est-ce qu'on peut dire un musée, disons, c'est un...
Si, c'est un musée autour des insectes intéressant. Ce n'est pas un musée des beaux-arts, ça, c'est sûr.
Qui, rappelons-le, est fait dans la... Parce que résidait dans le secteur, Fabre, le fameux entomologiste. Voilà. Alors, quand on parcourt, en fait, le guide, ce qui frappe, c'est qu'au fond, on fait musée de tout.
Oui.
Alors, il y a plusieurs démarches, bien sûr, pour déboucher sur un musée, mais... n'importe quel objet de départ peut très bien se retrouver dans un musée.
Alors, tout à fait. Donc, ce que j'ai pas fini de dire finalement, c'est qu'on a mis, je vous ai dit ce qu'on a mis. Par contre, qu'est-ce qu'on n'a pas mis ? On n'a pas mis notamment énormément de musées, notamment dans l'Hérault, qui sont tous les petits musées archéologiques. Voilà, ceux-là, on les a pas mis. Après, vous avez raison, tout ce qui touche aux arts ou aux métiers d'art, on les a inclus. Et donc, dans les métiers d'art, effectivement, ça peut aller assez loin.
Ou aux traditions populaires aussi.
Aux traditions populaires, tout à fait. Voilà. Mais bon, les gros poids lourds, ça reste quand même les Augustins à Toulouse, le musée Fabre ici, enfin les musées des beaux-arts des grandes villes.
Alors pour tout vous dire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le guide. Parce que ceux-là, on les connaît. Ouais. Bon, on ne peut pas dire qu'on fasse de grandes découvertes, on en connaît la qualité, etc. Bon, après, on a Serré, on a Collioure, on a... pour les musées d'art moderne, enfin plutôt contemporain. Le musée de l'Odin, enfin, tout ça, ça va très bien. On nous rappelle où ils sont.
Si possible, quand ils les avaient, on donne la programmation 2017, quand même.
C'est ça, donc c'est le côté revu, ça. Puisque,
voilà, et si vous voulez, il y a trois entrées pour chaque musée. Un, le fonds permanent, donc ça pour tous, il y a quelques lignes là-dessus, quelques lignes, voire plus. Deuxième entrée, la programmation 2017, quand ils l'avaient. Et troisième entrée, est-ce qu'ils prêtent leur cimaise aux artistes de la région ? Ça, c'est l'entrée un peu plus utile pour les artistes, on va dire.
Alors voilà, ça, à la fois, c'est un outil pour les artistes, mais aussi pour les visiteurs.
C'est avant tout un outil pour le grand public, mais on a voulu être dans la continuité du magazine qui parle des artistes et qui est élu par les artistes. Donc il y a ce petit plus pour les artistes, pour qu'ils sachent quels sont les musées qui sont un peu ouverts à l'art contemporain.
Alors on va lever une ambiguïté là aussi par rapport à ça, c'est qu'il n'y a aucune galerie, aucun...
Non, alors voilà, il n'y a que ceux qui ont des fonds permanents. Alors des fois c'est un peu tiré par les cheveux, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple?
Le lac,
il y a quand même une collection, mais vous avez raison, le lac, oui, ou alors celui qui est près d'Avignon, de Simone Reynaud, où il y a un parc de sculptures permanents, mais dans le château c'est du temporaire. Donc voilà, il y a des choses qui étaient borderline, on va dire, qu'on a quand même inclus. Par contre, il y a un critère qu'on n'a pas du tout pris en compte, c'est public ou privé. Que le musée soit public ou soit privé, du moment qu'il a un fonds, on l'a mis.
Oui, oui. Au fond, le statut importe peu.
Voilà. C'est ce qu'on s'est dit par rapport à l'amateur d'art.
Alors, des lieux qui ne soient pas de vrais musées, il y en a assez peu quand même. Alors, je disais le lac parce que c'est... Il y a une collection importante, c'est un lieu qui compte.
Mais si, il y a des centres d'art.
Quelques centres d'art, mais ce n'est pas la majorité, disons.
Si vous voulez, l'idée, là, c'est les musées et tout ce qui est fonds permanents. Et éventuellement, un jour, on pourra faire une galerie et centre d'art. Voilà. Donc, ou alors,
C'est une question que je me posais, oui.
Voilà. Ou alors, un jour ou l'autre, on inclut tout, mais ça sera un travail de titan.
Alors, on s'aperçoit que cette grande région, elle est fort bien pourvue quand même.
Oui.
Il y a 120 pages et c'est bien rempli.
Il y a plus de 150 entrées, je crois, mais je ne me rappelle plus le chiffre exact.
Et donc, il doit y avoir plus que ça, oui. Parce qu'il y a souvent plusieurs lieux par page. Je disais, on peut faire un musée comme on peut faire un feu de tout bois, on peut faire un musée de toutes choses. Alors, il y a des choses quand même assez rigolotes. il y a, par exemple, un musée des mœurs et coutumes à Espalion, en plein Aveyron, là. C'est tout à fait étonnant.
Il y a un petit musée. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de petits musées dans les zones les plus rurales, en Lozère, en Aveyron, dans les Hautes-Pyrénées, il y en a aussi, dans la partie montagneuse des Hautes-Garonne, mais qui sont parfois très intéressants. Il y a un tout petit musée de peinture à Saint-Frajou. Il faut le trouver, ça, dans la Haute-Garonne, mais la partie un peu rurale de la Haute-Garonne, qui est un musée privé de peinture qui est assez dynamique, qui organise des concours et autres. Donc tous ces petits musées, on les a mis parce qu'il y a toujours un intérêt. Musée des épouvantails.
Par exemple, c'est étonnant, c'est un musée des épouvantails.
Complètement.
Ouais. Alors il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, vous allez dire que c'est un peu tendancieux, le musée de l'Armagnac. Je trouvais ça fort intéressant. Je me suis demandé d'ailleurs si on dégustait. Peut-être, non, on ne sait pas.
J'imagine, oui. Pour tout vous avouer, pour une partie de Midi-Pyrénées, on a eu recours à une pigiste en Midi-Pyrénées qui connaît très très bien le secteur. Nous, ça fait un an qu'on couvre... la grande région, forcément, pour l'instant, je connais quand même encore mieux le Languedoc-Roussillon que la partie Midi-Py. Donc, j'ai été aidé notamment sur le musée de l'Armagnac.
Alors, il y a un musée qui s'appelle les... Alors, peut-être ça va vous mettre en difficulté parce que c'est pas le Languedoc-Roussillon. Il y a les Olivettins, qui est un musée...
C'est en Haute-Garonne, ça.
Voilà.
C'est un musée centre d'art, là, pour le coup. C'est ouvert à l'art contemporain.
À l'art contemporain.
Et c'est même en deux... Il y a deux lieux différents.
C'est à Saint-Bertrand de Comminges.
C'est ça, c'est dans la partie sud de la Haute-Garonne.
C'est intéressant, parce que c'est pas quand même un grand centre urbain.
Non, c'est ce que je vous disais. Oui, mais si vous voulez, en Midi-Pyrénées, il y a des centres d'art et des lieux ouverts à l'art contemporain dans des zones assez rurales. Alors qu'en Languedoc-Roussillon, ils ont fait le choix, l'État et la région a fait le choix de quelques grands musées. Quelques lieux beaucoup plus prestigieux, mais moins nombreux. En Midi-Py, il y a plus de lieux, peut-être moins connus, mais il y en a plus qui sont répartis sur le territoire.
Alors, il y a également des musées assez originaux. Je pense au musée des mémoires, au centre
Joué-Bousquet,
donc à Carcassonne. Il y a un musée des beaux-arts, mais il y a aussi ce musée qui est très particulier.
Est-ce qu'il fallait le mettre, est-ce qu'il ne fallait pas le mettre? Parce que c'est un musée autour de la personne d'un écrivain poète, Joué-Bousquet. Mais il se trouve que c'était un poète ami avec de nombreux artistes et qui, de temps en temps, organise encore des expositions d'art contemporain. Donc on a décidé de le mettre. Et puis parce que, a priori, ça intéresse le même type de lectorat. Voilà.
C'est un musée assez original. Alors, il y en a un autre à Perpignan, alors, comme je le connais, mais ça m'a beaucoup amusé de le dire ici, parce que, qui s'appelle, donc il est à Perpignan, il s'appelle à 100 mètres du centre du monde.
À CMCM, oui. Alors, c'est pareil, ça, c'est un centre d'art avant d'être un musée. Mais petit à petit, la personne qui détient ce centre se constitue une collection permanente, donc on a décidé de le mettre. Oui,
à
100 mètres du centre du monde, voilà, parce que pour Salvador Dali, le centre du monde, c'était la guerre de Perpignan. Et le centre à 100 mètres du centre du monde se trouve à peu près à 100 mètres de la gare, oui, dans des locaux magnifiques.
Voilà, dans une ancienne...
une ancienne usine, mais je ne sais pas de quoi...
Je ne sais pas non plus.
Mais et c'est tenu par
un endroit magnifique.
Voilà.
J'ai trouvé que le titre ne manquait pas d'humour et que donc c'était amusant de le rappeler. Alors, il y a aussi plusieurs, deux, trois, je crois, musées des cloches.
Alors, il y en a un à Érépian.
À Érépian, mais il y en a aussi un autre de l'autre côté.
Alors,
je ne saurais pas vous dire le lieu.
Alors, c'est pareil. Est-ce qu'on est encore dans l'art? Est-ce qu'on n'y est pas? Nous, on a considéré que c'était art et métier d'art et que donc ça pouvait intéresser aussi les gens. Voilà. Il y a des tas de choses où la frontière
n'est
pas évidente.
Non, mais c'est intéressant. Il y a un musée de la métallurgie, par exemple.
On n'a pas mis le Sicuarium du Gros du Roi, mais il faut savoir que le Sicuarium a eu parfois des artistes en résidence. Donc, on aurait pu les mettre. Bon, au bout d'un moment, il faut aussi arrêter, quoi. Mais...
Alors, il y a un musée du scaphandre.
À Agde.
Ouais.
Oui.
Bah... Non, Espalion.
Ah, toujours en espagnol.
Le musée Joseph Vaillette, peut-être, je ne sais pas la
prononciation. Oui, c'est vrai, c'est l'aventure du scaphandre.
Voilà.
Oui, tout à fait.
C'est étonnant parce qu'on...
Oui, c'est loufoque, c'est pas sur la mer.
On se dit, en plein Aveyron, un musée du scaphandre. Mais pourquoi pas quoi.
C'est
le sens que je dis, on fait musée de tout. Quoi. Et c'est... les marionnettes, on en a parlé... Il y a un musée des arts buissonniers. C'est très joli, ça.
Très, tout à fait. Et ça, c'est de mémoire, c'est
à Saint-Sever.
par un privé. Il y a beaucoup, souvent, effectivement, les lieux, vous avez raison, les lieux prennent les villes, les villages, s'appuient sur une célébrité locale pour essayer de créer un musée. Alors, parfois, ça donne des grandes choses. Par exemple, le musée Champollion, c'est un musée vraiment important. Parfois, ça donne des trucs un peu loufoques, comme le musée du scaphandre. Mais à chaque fois, la raison, c'est parce que la personne est originaire du lieu où se trouve le musée.
Alors, parlons-en du musée Champollion. C'est un musée des écritures.
Oui, c'est un musée très dynamique, autour donc, de la personnalité de Jean-François Champollion, qui a décrypté les hiéroglyphes. Mmh. Et autour de ça, ils font des expos sur le thème de l'écriture, mais aussi ouverts justement aux arts graphiques autour de l'écriture. Donc, c'est vraiment un musée intéressant, avec une belle programmation en 2017. Mais je l'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a des choses intéressantes.
Alors, dans le cadre des titres un peu curieux, un peu étonnants, il y a un lieu d'art contemporain qui s'appelle La Mouche.
Oui. Alors, c'est pareil. Plus centre d'art que musée. Mais la personne qui a ouvert ça, donc c'est à Béziers. C'est ouvert depuis un an et demi, deux ans seulement. La personne qui a ouvert La Mouche est une grande collectionneuse. Donc, il y a aussi une collection. Donc, on a décidé de le mettre. Voilà. Ce qui est très intéressant à Béziers, c'est qu'en un an et demi, deux ans, il y a eu trois galeries qui se sont ouvertes. Trois galeries centre d'art.
C'est assez paradoxal.
Complètement.
Mais je ne pense pas que les pouvoirs publics locaux soient très art contemporain.
Ben, ils ont fait, la mairie a fait une grande expo l'an dernier dans des containers qu'ils avaient répartis dans toute la ville. Donc, ils ne sont pas contre non plus. Après, chacun se positionne comme il peut par rapport à ça. Mais donc, il y a La Mouche, il y a la galerie Dupré-Dupré et la galerie Sophie-Julien. Ça fait, c'est important pour une ville.
Oui, ça veut dire quand même qu'il y a un public pour ça. A priori, sinon...
Ben, un an et demi après, elles y sont encore. Donc, on peut considérer que oui.
Ça dure. Alors, ce qu'il faut évidemment remarquer, c'est que les musées, en général, se bâtissent toujours sur une collection.
Oui.
Alors, vous disiez d'un personnage célèbre, et je pense à la petite collection qui est à Laveyrune, la collection
Offerbury,
qui donc était un collectionneur, peintre peut-être un petit peu, je crois, lui-même.
Il me semble. Qui vient de faire deux nouvelles acquisitions, d'ailleurs.
Et qui donc a fait don de sa collection à la municipalité, laquelle a créé dans le château petit musée, qui, ma foi, conséquent.
Et qui vient de recevoir, ils n'ont pas fait deux acquisitions, le musée vient de recevoir deux nouvelles donations.
Voilà. Et alors voilà, donc après, au fil du temps, le musée s'épaissit parce que il y a des donations supplémentaires, etc. Et puis on débouche donc au bout d'un moment sur un très beau musée. C'est d'ailleurs l'histoire du musée Fabre, grosso
tout
modo.
Tout à fait, tout hein, à fait.
À base de dons de collection. Et...
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est quand ces musées-là arrivent à garder quand même des espaces pour des expos temporaires. Donc c'est le cas du musée Auferburie, c'est le cas du musée Fabre, puisqu'au rez-de-chaussée, il y a des salles pour des expos temporaires. Donc ça permet de faire à la fois musée et puis galerie, d'une certaine manière, dans un même lieu. Voilà.
Alors donc, ça nous permet de, eh ben, de se diriger dans, dans cette grande région, de voir des choses étonnantes. Alors là, je tombe en le feuilletant, je tombe sur un autre. Moi, je n'imaginais pas que ça existe. Le musée du bois et de la marqueterie.
Très, très beau musée. À Revel, très, très beau musée, qui est adossé au lycée, à un lycée des métiers d'art spécialisé dans le bois. Donc, c'est un musée où, là, pour le coup, j'y suis allée parce que la finale des métiers d'art en région avait lieu dans ce musée l'an dernier. Donc, c'est un musée où on nous décrit toutes les techniques des métiers d'art autour du bois et où il y a des œuvres d'art, d'ébénisterie, soit du mobilier, mais aussi des tableaux, de la marqueterie. Et il y a une salle temporaire au rez-de-chaussée qui accueille des artistes régulièrement qui travaillent autour du bois. C'est un musée très important parce que, je vous dis, parce qu'il y a une dynamique à Revel autour de ce thème-là du bois.
Et on n'imagine pas spontanément que le bois attire à ce point les arts contemporains.
Y a quand même pas mal de gens aussi qui travaillent autour du bois. Alors, c'est soit des métiers d'art très sophistiqués, très élaborés, avec une vraie technique derrière, donc tout ce qui est marqueterie, etc. Soit plus dans la veine art brut, avec des gens qui travaillent des bois flottés, des bois qu'ils trouvent, des cagettes, tout ce que vous voulez. Donc, le bois se prête à pas mal de formes différentes de forme artistique.
Alors, vous prononciez le terme, donc il y a quelques musées d'art brut.
Oui. Alors, plus que quelques, d'une certaine manière, la région, je trouve, moi, devrait les fédérer, devrait faire une plaquette, ou nous, alors pourquoi pas. Mais il y a matière maintenant à faire une espèce de regroupement, parce que, donc, il y a un musée d'art brut qui est ouvert à Montpellier.
Oui, très bien.
Il y a Philippe Aigny qui a ouvert un musée centre d'art, mais enfin, c'est quand même aussi un musée dans les Corbières, à Serviette-en-Val. Il y a le MIAM. C'est art brut ou c'est pas art brut, mais enfin, c'est quand même dans cette mouvance-là.
Quand même.
Voilà. Et puis, il y a quoi ? Il me semble qu'il y en a encore un ou deux autres.
Je pense aussi, oui, dans l'autre, dans l'autre région.
Côté Midi-Py, oui.
L'ancienne autre région.
Donc, ça commence à compter. Je veux dire, Laurent Danchin, là, qui vient de décéder, qui est le grand spécialiste d'art brut, avait fait le déplacement pour la création du musée de l'art brut à Montpellier. Jean-Claude Volo, qui est un autre très très grand collectionneur d'art brut, avait fait le déplacement pour l'ouverture du musée de Philippe Aigny. Donc c'est des lieux qui comptent. Ah bah si, l'autre qu'on oublie, c'est Cérès Franco la collection Cérès Franco à Montaulieu, près de Carcassonne, qui elle, pareil, quand elle a ouvert, les grands noms de l'art brut étaient venus. Donc il y aurait moyen de mettre tout ça en synergie.
Alors après, il y a des musées, on en a dit quelques-uns, qui sont techniques. Je pense également au musée sur le livre et les techniques d'impression. Alors, à Lunel, à Montoulieu, il y a plusieurs...
Alors, c'est pareil, celui de Lunel, le musée Médard, qui a ouvert assez récemment aussi, il y a 2-3 ans.
Qui a été entièrement rénové.
Complètement, il est basé sur la collection...
La collection de M. Médard.
Voilà, qui était un Lunellois.
À signaler d'ailleurs qu'il y a une collection de textes théâtraux révolutionnaires, à peu près de l'ordre de 500. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que durant la Révolution, donc, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient du théâtre.
D'accord.
Et qui étaient en prise directe avec la réalité qu'ils vivaient. Et donc, dans ce musée, il y a une collection magnifique de ces textes-là.
Plus un vrai dynamisme en termes d'exposition temporaire. C'est un musée qui s'est vite imposé.
Oui, oui. Mais Lunel, paradoxalement, a 2 ou 3 musées. Il y a un musée des...
Il y a plusieurs choses avec une programmation. Enfin, je suis impressionné par la programmation. De même que ce matin, j'ai reçu la programmation de Tarbes, qui est pareil, une ville, on va dire, moyenne, qui a une programmation d'exposition très intéressante.
Alors, il y a il y a un assez grand nombre de musées de la mémoire liés à la guerre, à la résistance. Oui. Bon, parce que là, effectivement, il y a... une forte présence, il y a eu des événements importants et donc des gens qui ont tenu à ce que... Alors là, c'est moins ça part moins d'une collection, mais plutôt
d'un lieu.
Voilà, et de gens qui ont amené des choses autour de ça. Et puis il y a il faut quand même citer quelques grands noms qu'on ne sait pas qu'on a, par exemple, un échantillon de toile de Goya absolument superbe à Castres.
Complètement, oui. Hein,
dans un musée qui a, là aussi, qui a été
Il y a quelques
repensé.
Grands noms, vous avez raison. Donc, il y a Goya à Castres, il y a Toulouse-Lautrec à Albi, évidemment.
Alors
donc,
là, musée, là, pareil, musée entièrement revu.
Oui, oui, oui.
Muséographie complètement chamboulée et magnifique.
Complètement. Mais à chaque fois, avec des, ce sont des vrais musées avec des œuvres importantes des artistes en question. Et puis à Montauban, alors Montauban, c'était un cas particulier, on ne savait pas trop comment faire, puisqu'il y a le musée Ingres, qui est quand même aussi un des très grands noms de la
très
région.
Très bonne collection. Oui.
Voilà, sauf qu'il ferme. Là, il ferme justement, comme on fermait le musée Fab il y a quelques années. Bon, il ferme pour être complètement restructuré. Donc on l'a quand même inclus dans le guide et on en a profité pour... pour dire un petit peu toute la politique mise en place par Montauban pour que les œuvres circulent quand même pendant la période de fermeture du musée.
Est-ce que vous avez été surprise par la quantité de musées ou...
Ah oui, oui, oui. Au départ, si vous voulez, je pensais d'abord, un, que ce serait à peu près faisable sans forcément prendre d'autres personnes. Bon, première conclusion, dès que j'ai vu la liste, on s'est fait aider sur Midi-Pyrénées. Et deuxièmement, c'était cette histoire de définition. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans les musées, parce que c'est pas si simple que ça. Donc on a vraiment fait plusieurs réunions pour décider au cas par cas ce qu'on mettait, ce qu'on ne mettait pas. Puis alors, il y a des choses sympathiques. Carla Bail, par exemple, donc... qui est un village de l'Ariège, un village connu pour fédérer énormément d'artistes, qui a décidé dernièrement d'essayer de faire un musée. Ils se sont dit, on a plein d'artistes dans le village, et puis finalement, on n'a pas d'œuvre d'eux. Donc Carla Bail est en train de créer un musée, tout simplement pour garder une trace de tous les artistes qui y ont habité. Un peu comme, le musée de Céret, par exemple, est quand même constitué d'œuvres représentant Céret, de gens qui y ont habité. Bon, Carla Bail est en train de se dire, il ne faut pas qu'on passe à côté, parce qu'on a plein d'artistes, ils ne deviendront certainement pas tous connus, mais ça vaut le coup de garder une trace.
C'est un peu le cas du musée de Rodez, le musée Soulages.
Oui, tout à fait.
Qui donne un enfant du pays. Enfin, si on peut dire ça de façon si triviale. À signaler d'ailleurs qu'à Rodez, il y a un très beau musée, le musée Fenaille également.
Oui,
il n'y a pas le musée de...
Le musée Soulages non plus. Mmh. Et dans les grands noms, puisqu'on parle des grands noms, autant ne pas en oublier un autre, c'est Hyacinthe Rigaud. Qui lui est à Perpignan et qui nous a posé le même problème que Ingres à Montauban, puisque le musée Hyacinthe Rigaud est fermé mais pour restructuration complète. Mais lui, il rouvre par contre en 2017. Il rouvre en mai ou juin. Voilà, avec, je crois que c'est au musée Hyacinthe Rigaud qu'il va y avoir une grande expo Picasso.
On peut espérer que ce petit guide va donner quelques idées à la nouvelle région et pour essayer de valoriser vis-à-vis des étrangers, des visiteurs, quand même, tout ce patrimoine qui est considérable.
Ben j'espère, oui. En tout cas, nous, on a été très, très bien reçus par tous les musées qui ont trouvé que la démarche était vraiment intéressante. Et c'est la première fois, a priori, que tous ces musées se retrouvent dans un guide à l'échelle de cette région. Parce qu'avant, il y avait 5 départements d'un côté, 8 de l'autre. Maintenant, il y en a 13, autant qu'ils apprennent à se connaître, parce qu'il y a des tas de choses complémentaires entre les deux parties de la région.
Autrefois, il y avait un gros livre qui avait été fait sur plutôt sur les grands musées, qui s'appelait Le sel de la terre. Et qui,
côté Languedoc-Roussillon
Oui, que Languedoc-Roussillon, oui. Voilà. Mais qui était un livre important. Enfin, on n'avait pas la même possibilité qu'avec ce guide, où là, quasiment, on peut visiter la région à travers ses musées.
C'est ce qu'on a essayé de faire, oui. Donc ça commence par une carte. Et la carte, on a mis des couleurs différentes pour chaque département. Mais volontairement, on n'a pas voulu regrouper d'un côté Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. On a voulu faire d'autres regroupements. Donc on a regroupé Hautes-Pyrénées-Orientales, Ariège. On a regroupé l'Aveyron avec le Gard et la Lozère. Enfin, on a essayé justement de faire que tout ça fusionne réellement.
Oui, d'ailleurs, on a l'impression que grâce à votre découpage, on doit pouvoir en voiture en une journée faire une petite série là, dans un voisinage à peu près normal. Il n'y manquerait plus que quelques restaurants et ce serait parfait. On aurait
bon, l'an prochain, on mettra les restos.
Une sorte de guide des bonnes adresses en même temps que les nourritures spirituelles et les nourritures culinaires. Voilà.
Alors la photo, on a mis tout ce qui est musée de la photo. Il y a quand même des choses intéressantes en photo. Bon, Montpellier.
Château d'eau.
Alors voilà, le château d'eau à Toulouse et puis Lectour dans le Gers, qui est quand même un centre national référencé au niveau national pour la photo. Donc ceux-là, on les a inclus, bien évidemment. Et j'ai inclus sur Toulouse aussi quelque chose qui ne devrait pas y être, un peu comme Micropolis, un musée axé sur l'aérien, mais qui a une très grande collection de photos de Jean Dieuzède. Donc je me suis dit, il y a vraiment un volet qui va intéresser les amateurs de photos, on le met dans le guide, même si le premier thème du musée est l'aérien.
Jean Dieuzède, qui est donc le fondateur de la galerie du Château d'Eau,
voilà.
Et qui est le grand photographe
toulousain
qui est un très très grand photographe. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point il peut l'être, à l'image des très très grands photographes du monde entier. Quoi.
Toulouse le mesure, donc nous aurait été les Montpelliérains le savoir aussi.
on ne saurait trop conseiller aux gens d'aller à la galerie du Château d'Eau, qui expose aussi beaucoup de photographes contemporains.
Ah oui complètement, qui fait 3-4 grandes expos par an.
Voilà, au fil de l'année. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce petit guide donc,
Alors,
en fait, je dis ce petit guide parce qu'en fait, il est un peu réduit en format par rapport à la revue.
Oui, volontairement. On s'est dit, on va faire un format pratique, voilà, à mettre dans la poche. Donc, c'est un format à moitié d'un A4, c'est A5, hein, c'est ça.
C'est un format A5. C'est ça.
Volontairement. Par contre, on reprendra notre format classique dans le prochain numéro. Parce que pour présenter des artistes, il vaut quand même mieux un format un peu plus grand. Voilà, alors où est-ce qu'on peut le trouver ? Ben dans les mêmes points de vente que le magazine, c'est-à-dire les librairies et pas les kiosques. Alors attention, un réseau de librairies qu'on n'a pas voulu surmultiplier, donc vous trouvez tous les noms des librairies sur notre site, sur le site Art dans l'air, ou sinon chez nous, quoi, par Internet ou par correspondance.
Ça serait bien qu'on puisse le trouver dans les offices de tourisme.
Alors, peut-être. On en a mis, oui. Non, il y en a aussi. On en a mis dans pas mal d'offices de tourisme. Où est-ce que je suis allé la dernière fois ? Je suis allé en mettre à Canet-en-Roussillon, à Perpignan. On est allé en mettre pas mal à Toulouse. Donc, il y en a dans pas mal d'endroits. Maintenant, je n'ai pas une liste exhaustive à vous donner. Donc,
voilà. Et puis, si on veut se le procurer, donc on écrit...
Art dans l'air.
Oui, c'est-à-dire où ?
www.artdanslair.fr et là vous aurez toutes les coordonnées, téléphone, adresse, etc.
Et bien voilà, de quoi découvrir donc cette nouvelle et grande et belle région Occitanie à travers son patrimoine muséal. Merci beaucoup Anne de Vailly.
Merci beaucoup.
Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Gulliver. Je vous donne rendez-vous bien sûr à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.